Interview.
10 voix pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Enzo Cavalier. Bonjour.
Bonjour.
Enzo, vous êtes auteur et illustrateur pour Polskar. C'est un jeu d'expédition que vous avez créé avec une équipe, un jeu de rôle français et même créé dans le Diwa et qui est en financement participatif pour cette année, cette fin d'année 2022. Alors avant, on peut rappeler un peu ce qu'est Polskar. Vous étiez déjà venu en début d'année pour nous le présenter, ce jeu. Et là, c'était encore à l'époque de la conception et aussi d'une certaine esthétique.
Oui. Exactement quand j'étais venu, donc je crois que c'était au début du printemps, j'étais venu pour vous présenter le jeu, pour présenter le projet, l'équipe, et effectivement on était en pleine rédaction, en pleine illustration de la maquette. Et donc pour rappeler un petit peu Polskar, c'est un jeu d'expédition, un jeu de rôle. Le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un type de jeu de société où on va se raconter des histoires autour d'une table, dans la famille ou entre amis. Il va y avoir un meneur de jeu, un conteur qui va raconter une histoire et des joueurs qui vont incarner les personnages de cette histoire. Et en fonction de l'univers du jeu de rôle, on va vivre des aventures. Là, l'idée de Polskar, c'est de proposer un jeu donc, d'expédition qui met en scène, qui va pousser les joueurs en fait, à partir explorer des territoires, rencontrer des tribus, des communautés, passer des traités de paix, ce genre de choses. Et voilà, l'idée, c'est de proposer un jeu qui soit qui pousse les joueurs à remettre un peu en question leur impact et leurs interactions avec leur écosystème.
La conception et les règles de ce jeu s'inspirent d'une certaine réalité, ou alors est-ce que c'est une autre manière d'envisager les échanges entre les populations et à travers le monde ?
Comme c'est un jeu d'expédition, l'idée c'est quand même de plonger les joueurs dans une ambiance d'expédition. Donc on s'inspire beaucoup des premières expéditions pionnières qu'on a pu faire en Afrique ou en Amérique latine par exemple. Dans cette idée où les joueurs vont devoir vraiment bien préparer leur matériel avant de partir traverser des territoires hostiles en autonomie complète, mais de la même manière qu'on le ferait pour traverser le Vercors en hiver par exemple, bien préparer son paquetage, etc. Après, en termes d'interaction, c'est vrai que c'est un jeu et un univers qui pousse les joueurs quand même à aller dans le sens de l'univers, c'est-à-dire essayer de comprendre la culture des communautés qu'ils rencontrent, essayer de comprendre aussi les lois et les règles des écosystèmes qu'ils traversent, pour pas forcément être en opposition, comme beaucoup de jeux ont tendance à le mettre en scène, c'est-à-dire par le combat. Non, là, au contraire, on essaie plus d'aller dans de l'intimidation bienveillante, de la diplomatie, de l'échange, du troc. Voilà, l'idée, c'est plus de s'interroger sur comment vivre d'autres peuples, puisque les peuples du Polskar s'inspirent beaucoup de nos peuples racines, des Inuits, des Samis, des communautés polynésiennes, ce genre de choses, quoi.
Il y a cette idée du jeu d'expédition. Une expédition est motivée souvent. On peut parler de cette espèce d'Eldorado pour les expéditions espagnoles en Amérique latine, en France et puis en Afrique. Il y avait énormément de richesses naturelles, l'ivoire,
les ressources,
l'ébène.
Ouais, voilà, des ressources en général. Ouais.
Donc, ces expéditions expédition, c'est une incitation à aller vers ces contrées pour y trouver des richesses locales.
Des richesses ou divers éléments, puisque en fait, donc l'histoire se passe sur le Polskar, un monde qui était autrefois comme le nôtre, c'est-à-dire un planétoïde uni avec des continents, des océans. Et puis c'est un monde un peu particulier, puisqu'il a subi un cataclysme géologique. Donc on parle d'univers post-apo, mais c'est pas un post-apo nucléaire ou quoi, on est plus sur quelque chose de très naturel. Et donc le monde est fracturé, il est fait d'îlots qui dérivent, et donc les ressources sont très dures à exploiter. Donc les personnages, quand ils vont jouer, les joueurs, ils vont créer une compagnie, la société avec laquelle ils vont partir en expédition, et ils vont pouvoir choisir s'ils veulent partir pour récupérer des ressources, pour escorter des caravanes marchandes, pour justement être un petit peu les émissaires d'une diplomatie bienveillante, ce genre de choses. Donc c'est vraiment les joueurs qui vont un peu donner la mesure de l'histoire. Et le meneur de jeu est là simplement pour raconter leurs histoires, un peu comme dans du western finalement, où les paysages sont gigantesques, mais c'est l'histoire des simples humains qui y vivent qui est racontée, quoi.
Alors, il y a d'un côté les expéditionnaires, si on peut dire comme ça.
Oui, on peut.
Voilà. Et d'un autre côté, les pays hôtes ou les pays avec ces peuples. Comment se répartissent justement ces rôles au niveau d'une équipe de joueurs? Il y a donc d'un côté les explorateurs et puis d'un autre les peuples autochtones. Comment se répartissent et quels sont les personnages ou comment dire, quelle serait l'essence de chacun?
Eh bien, donc le principe du jeu de rôle, c'est vraiment qu'il y a un meneur de jeu. Moi, j'aime bien appeler ça un narrateur. C'est celui qui va vraiment poser le décor, qui va justement incarner et jouer tous les peuples que les joueurs vont rencontrer. Si ils doivent rencontrer une communauté tribale, le meneur de jeu jouera les guerriers tribaux ou les émissaires. S'ils doivent rencontrer une créature, un prédateur, le meneur de jeu incarnera ce prédateur en grognant et potentiellement en attaquant les personnages. Et de l'autre côté, les joueurs vont vraiment être placés dans la peau de ces explorateurs qui vont devoir prendre des décisions, qui vont devoir gérer leurs ressources au mieux, des ressources matérielles, mais aussi des ressources de courage, d'énergie, de fatigue, etc., pour aller au-devant du danger et potentiellement s'en défaire pour atteindre les objectifs de leur expédition. Donc ça, c'est vraiment le propre du jeu de rôle, on va dire. Et maintenant, dans la particularité de ce jeu, de Polskar, c'est que pour éviter une tâche un peu trop fastidieuse à celui qui va raconter l'histoire, l'histoire, elle est partagée, on parle de narration partagée, c'est vraiment le centre des mécaniques du jeu, c'est-à-dire que tout le monde autour de la table va pouvoir influencer l'histoire qui sera raconté. Et donc ça marche très très bien avec des joueurs débutants qui voudraient s'essayer au jeu de rôle, qui parfois fait peur un petit peu dans ses mécaniques, mais ça marche aussi très très bien avec les enfants, puisque en fait un enfant, il a besoin de prendre la parole, il a besoin d'être le héros de l'histoire qu'on lui raconte, puisque les dessins animés sont faits comme ça. Et donc quand tu donnes la parole à un enfant en lui disant « Eh ben là, tu arrives dans une forêt, décris-moi la forêt et dis-moi décris-moi les lutins qui y vivent ou décris-moi les bêtes sauvages qui y vivent », l'enfant, il va vraiment son implication dans la partie, elle va être doublée, et en plus de ça, il va vraiment surprendre même l'adulte par son imagination, etc. Donc c'est pour ça que c'est un jeu que j'adore faire jouer en famille, que j'ai eu l'occasion de faire jouer à des tables d'enfants quand je le présente en salon, et ça marche très très bien.
En parlant d'une narration au départ, alimentée ensuite par les enjeux de chaque joueur, est-ce que cette histoire donc évolue, s'amplifie, prend une direction autre même?
Bien sûr, ouais. En fait, en général, quand on joue au jeu de rôle, on joue plusieurs parties pendant des mois, voire des années. On se réunit une fois par semaine, une fois par mois. Je voulais un peu prendre le contre-pied de ça, puisqu'on n'a pas forcément le temps de s'investir autant dans un jeu. Et du coup, Polskar se prête très bien aux sessions uniques, courtes. On a une soirée, on a trois heures pour jouer. En une soirée de jeu, on va pouvoir raconter ensemble une histoire du début à la fin. Maintenant, si on a envie de jouer longtemps à Polskar, effectivement, que entre chaque expédition, un petit peu à la manière d'une série policière qu'on pourrait trouver sur, à la télé, par exemple, entre chaque expédition, il peut y avoir un fil rouge. Et c'est ce fil rouge qui va donner vraiment du corps à l'histoire, du corps aussi aux personnages, à leurs convictions, etc.
Et puis, il y a le hasard, hein, puisque le jeu se pratique au dé.
Exactement. Le principe d'un jeu de rôle, c'est que le meneur de jeu qui raconte l'histoire, il doit être impartial. Et comment décider que quelqu'un qui voudrait escalader une falaise réussisse ou échoue ? Ça va être fait via le hasard des dés. Le joueur, en fonction de s'il est plus ou moins compétent dans son action, il va lancer un plus ou moins grand nombre de dés. Ici, des dés à 6 faces, donc les dés classiques. Et il va devoir, dans Polskar, réaliser un double, un triple, voilà, des combos, un petit peu comme au Yahtzee. Et en fonction du combo qu'il aura réussi à faire, il réussira plus ou moins bien son action. Ce qui permet au meneur de jeu de ne pas avoir à juger de la réussite ou de l'échec des actions de ses joueurs, mais c'est bien les joueurs qui vont essayer de se donner au maximum. Et puis de toute façon, on raconte que c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage, mais c'est souvent dans les vraies histoires, c'est souvent les échecs, les drames qui forgent une histoire, parce que si on réussit tout, finalement, dans la vie, elle est pas intéressante, quoi.
Un jeu réservé à partir de 12 ans, hein, semble-t-il. Ça se joue de 2 à 5 personnes, pas au-delà.
Eh bien, oui, par rapport au nombre de personnes, donc, il faut savoir que le jeu de rôle Polskar se présente sous la forme d'un gros livre dans lequel vous avez un univers, des illustrations de peuples, etc., comment créer des personnages. Donc, pour la réalisation de ce livre, j'ai été tout seul. C'est pour ça que je suis auteur et illustrateur. Néanmoins, je suis entouré d'une équipe de relectrices, d'abord, qui ont relu mon travail pour essayer d'en enlever les coquilles, d'améliorer la qualité littéraire, on va dire. Et puis, des playtesters aussi, donc des joueurs, une quarantaine de joueurs qui ont énormément dit dans le Vercors, hein, qui ont, sur les internets aussi, qui ont beaucoup joué au jeu pour essayer d'en faire le meilleur jeu possible. Et puis, très récemment, quand il a fallu créer un petit peu des collaborations pour fabriquer des objets qui viennent s'ajouter au livre pour renforcer l'immersion autour de la table. J'ai voulu m'entourer d'artisans parce que l'univers de Polskar est un univers artisanal dans lequel les peuples qui y vivent sculptent le bois, sculptent la pierre. C'était important pour moi de retranscrire ça, de ne pas simplement avoir des jetons en plastique. Donc, j'ai par exemple sollicité une peintre pour réaliser un écran à l'aide d'une peinture à l'huile. Qui sera reproduite bien sûr, mais l'original est à la peinture à l'huile. Un artisan du bois qui se charge de graver des dés en bois. Un céramiste low-tech, Martin Serre, qui est basé sur Cré, donc on reste quand même dans le local, qui lui fait une piste à dés en forme de phare, etc. L'idée, c'était vraiment d'avoir des objets les plus artisanaux, donc uniques, mais les plus simples possibles dans leur manufacture, quoi. Voilà. Et donc, tous ces éléments, en fait, constituent les différents paliers, les différentes contreparties que les contributeurs peuvent décider d'acheter lors du financement participatif. Ce financement participatif, il se déroule il a commencé lundi dernier, du 14 novembre, il se déroule jusqu'au 7 décembre 2022 sur une plateforme de financement participatif dédiée qui s'appelle Game on Tabletop, donc jeu sur table en anglais, hein, et qui est un petit peu comme Ulule. Beaucoup de gens connaissent Ulule ou Kickstarter. Là, c'est pareil, mais pour les jeux. Le financement de Polskar a été lancé depuis une semaine. Le jeu est déjà financé. Voilà, il a trouvé sa communauté. Mais maintenant, il nous reste un peu moins de 16 jours pour essayer d'en faire le projet le plus beau possible et puis de créer la communauté de joueurs la plus dense possible à travers la France, à travers le Diwa peut-être. Voilà.
Concrètement, l'acquisition du jeu résulte à quelle matière pour la personne qui se l'approprie ? Il y a un livre, donc ?
Oui, on a essayé, dans la construction de ce qu'on appelle les contreparties, donc c'est les paniers, on va dire, qui se compose de lots de produits. On a essayé de s'adapter à tous les budgets. Déjà, il y a un palier de soutien qui est de 5 euros, où la personne elle peut donner 5 euros et plus, simplement pour avoir son nom dans les remerciements du livre et puis participer au projet comme ça. Ensuite, on a un palier, une contrepartie qui est entièrement numérique, où la personne elle va avoir l'entièreté de la gamme, donc le livre, un recueil de scénarios, des cartes, des illustrations, tout en numérique. À 30 euros. Et ensuite, on va dire le panier le plus important. Je vous laisserai découvrir les autres si vous allez sur la page de Game on Tabletop. Mais on a le palier où vous avez le livre et l'écran, ainsi que toutes les options, c'est-à-dire tous les cadeaux qui ont été débloqués au cours de la campagne. Et il y en a déjà beaucoup. Ce palier-là, il est à 50 euros. Donc pour 50 euros, vous avez le livre de jeu, un livre de 320 pages en couleur, etc. Et un écran, donc comme un tableau que vous allez pouvoir mettre entre vous et les joueurs. Et sur lequel d'un côté il y a une magnifique illustration faite par une peintre et de l'autre il y a un petit peu des conseils pendant la partie pour que vous n'ayez pas à aller chercher dans votre livre une règle ou le nom d'un personnage, ce genre de choses.
Qu'est-ce qui découle de ces parties de jeu opérées par ces personnes qui les ont testées quelles ont été leurs impressions et de là, est-ce que cela vous a permis aussi de l'améliorer?
Eh bien, il faut savoir que ce jeu a été testé pendant plus de 2 ans, ce qui est quand même assez long. Donc, dans mon salon, Adi, une fois par semaine. Et d'ailleurs, mercredi, sur la chaîne YouTube du jeu, sortira une vidéo qui s'appelle « Ils y ont joué, ils vous en parlent », où j'ai interviewé, j'ai interviewé tous les artisans. On découvre le travail, par exemple, de Martin, que vous pourrez retrouver basé à Cré. Mais dans cette vidéo, vraiment, il y a une interview de toutes les joueurs, donc ils en parleront mieux que moi. Mais globalement, ce qu'ils y ont trouvé, c'est déjà un appel à l'imaginaire, un appel à une nature un petit peu, une nature que l'on doit respecter, parce que c'est une nature qui est hostile, qui est sauvage, mais qui n'est pas forcément mauvaise. C'est une nature tout simplement qui fixe ses limites et qui protège son territoire au travers de sa faune, de sa flore et surtout au travers des entités climatiques propres à Polskar. C'est-à-dire que si nous, aujourd'hui, on connaît un réchauffement climatique, les citoyens de Polskar connaissent un monde qui se recouvre petit à petit de glace. Donc c'est un contre-pied, mais les problématiques sont les mêmes. Et ce que les joueurs ont vraiment perçu de toute leur partie au travers de la narration, c'est vraiment un questionnement sur comment exploiter les ressources de notre environnement, comment interagir avec des communautés qui n'ont pas les mêmes convictions que nous, et aussi comment mener sa vie pour qu'elle soit le plus résiliente possible en termes de potentiel travail, de famille, etc. Donc en fait, on pourrait croire que finalement dans Polskar, on joue nos vies à nous. C'est un peu le cas, mais le monde est suffisamment différent quand même pour que l'appel à l'imaginaire soit important. Hein. On ne va pas jouer un métro boulot dodo, on va quand même jouer des aventuriers. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller au-devant de l'inconnu. Et l'inconnu, en fait, moi, c'est ce que je disais déjà lors de notre première interview, l'imprévu, il est à 1000 mètres d'altitude là, c'est-à-dire que si en plein hiver vous décidez d'aller camper sur les hauts plateaux du Vercors pendant 1 ou 2 jours, ce sera déjà une expédition qui aura déjà l'allure d'une expédition dans Polskar. Et donc c'est un peu pour essayer de reconnecter les gens à ce réel là.
La nature dans ce jeu a une part importante dans son action ou dans sa réaction aussi par rapport à tout ce que proposent les expéditions, les explorateurs. Est-ce que ce rôle de la nature est confié à un des joueurs ou alors c'est uniquement la narration ?
Eh bien, en général, ça va être le meneur de jeu qui va jouer le blizzard, qui va jouer les prédateurs, etc. Ça va être, lui, son travail. Néanmoins, dans Polskar, via la narration partagée, les voyages vont être joués et ça va être les joueurs qui vont décider de ce qui se passe pendant le voyage. C'est-à-dire que, admettons, une expédition dans Polskar peut être simplement d'aller livrer une cargaison d'un point A à un point B. Tout ce qui va se passer d'un point A à un point B, ce n'est pas forcément le meneur de jeu qui va le décrire. C'est les joueurs qui vont dire qu'au détour de la piste, ils rencontrent une communauté ou alors une avalanche s'est déclenchée et un convoi est pris dans la neige, etc. Donc les joueurs vont aussi être amenés à incarner le froid, incarner tous ces éléments qui composent leur environnement. Voilà.
À la sortie de ces tests, je suppose que tous les âges y ont pratiqué, hein, de l'enfance à adulte. Est-ce que cela leur a ouvert un regard ou est-ce que cela leur a permis de voir le monde, le nôtre, d'une autre manière peut-être ?
Ça, je ne sais pas si j'ai la prétention de dire...
Je parle dans les retours que
oui,
vous avez...
Oui, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai la prétention de dire que ça leur a changé leur manière de vivre. Mais déjà, j'ai fait jouer Polskar de 8 à 65 ans. Donc ça, c'est quand même cool, hein, de brasser un public très, très large. Et moi, ce que j'aime bien dire aux gens quand je leur fais jouer, j'ai fait jouer le jeu énormément en convention par exemple, avec des publics vraiment très variés, voilà, culturellement, socialement, etc. Ce que j'aime bien dire à la fin d'une expédition, c'est que on a joué pendant 3 heures, on a vécu des aventures, un petit peu comme dans les films, sauf que les films nous habituent à une forme de violence. Souvent, il y a un méchant, un gentil, il y a pendant toute la partie des combats, etc. Ce que j'aime bien dire dans Polskar, c'est qu'on a joué 3 heures, on a vécu des aventures, et pourtant, on n'a tiré aucun coup de feu, on ne s'est pas battu. Et ça, c'est important. Et je trouve que, surtout pour les enfants, ou pour les gens qui sont habitués aux jeux vidéo, par exemple, c'est-à-dire à une violence qui est tellement exacerbée qu'elle est, elle est finalement passive, quoi, voilà, bah, c'est un jeu de combat, ok, ça n'a plus de sens de se battre. Et bien, en fait, dans Polskar, un enfant, il va avoir tendance, parce qu'il veut reproduire ce qu'il voit dans les dessins animés, à se battre. Et en fait... À la fin des parties, ils vont dire « Ah oui, mais en fait, ils vont vraiment prendre plus de plaisir à effrayer une créature ou à essayer de la dompter, de la calmer, de comprendre si elle est là parce qu'elle est agressive, parce qu'elle défend ses petits, par exemple, plutôt que de simplement lui tirer dessus avec un fusil ou un arc, quoi. » Et donc ça, je trouve que c'est quand même cool. En tout cas, moi, c'était vraiment un des fers de lance quand j'ai créé le jeu. C'était d'amener d'autres résolutions du conflit parce que je pense sincèrement que dans notre futur à nous, terriens, on va être amené à devoir résoudre des situations conflictuelles. Et si on apprend d'ores et déjà par le jeu, par exemple, ou par le film, par la littérature, à les résoudre autrement que via la violence, ça nous sera assez précieux demain ou après-demain, quoi.
Il y a la finalisation de l'édition de ce livre. Vous avez déjà un contact avec l'imprimeur qui se chargera de l'éditer ?
Oui, le jeu, donc tout ce qui composera les différents produits actuellement en vente sur Game on Tabletop sont réalisés en France. Hormis, je tiens à le préciser, la pâte à papier, qui malheureusement est lituanienne, mais pour la totalité des livres produits en Europe. Sinon, tout sera fait en France et l'imprimeur a déjà été trouvé. Il habite dans le nord de la France, il est à Lille. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans l'édition de livres à petite série et vraiment des livres très qualitatifs, très jolis, pour essayer de plonger au maximum les joueurs, celui qui va acheter le livre dans une ambiance d'univers. Donc voilà. Hormis ça, les artisans que j'introduisais tout à l'heure, qui sont du coup locaux pour la plupart, en tout cas, ils vivent tous en Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est des amis, tout simplement. Et donc voilà, ça, c'était important pour moi. Et l'autre chose importante à dire, c'est que tout est prêt. Donc, le financement participatif s'achève le 7 décembre à minuit. Et potentiellement, pas le 8 parce que je pense que j'aurai besoin d'une journée de repos pour fêter ça, mais d'ici en fait janvier, tout partira en production pour une livraison au printemps 2023, donc mars, avril, au pire mai pour ceux qui auront pris vraiment des produits artisanaux. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas attendre 1 ou 2 ans, qui est plutôt la durée moyenne pour ce genre de jeu. Non, là, c'est on a un coup de cœur, on contribue au projet, et puis 3, 4, 5 mois après, on joue, quoi.
Au départ, vous êtes le seul financeur de ce projet, de bout en bout?
Oui, j'ai beaucoup investi, surtout investi du temps, puisque en fait, quand on n'a pas la compétence, souvent, on va avoir des professionnels qui l'ont. Moi, j'ai pris le temps, en fait, au travers de 2 années de papa à la maison, etc., d'acquérir ces compétences-là, donc des compétences de graphisme, des compétences d'illustrateur, de communication aussi. Aujourd'hui, je suis le directeur projet de Polscar et ça m'a permis d'acquérir beaucoup de compétences et donc d'économiser de l'argent. Néanmoins, on a réalisé notamment un court-métrage en mars dernier sur les hauts plateaux du Massif des Bauges en Savoie. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que j'ai investi moi. Et donc, ce financement participatif visait à prendre en charge tous ces coûts de production et aussi de prendre en charge les coûts de production des différents produits, les livres, etc. Donc, voilà. C'est le financement, donc je demandais 3500 euros. Les 3500 euros ont été atteints en 3 heures par une communauté de joueurs qui était vraiment là dès le début, quoi. Et puis aujourd'hui, à une semaine du financement, on est à un peu moins de 7000 euros de récolté. Et il reste pas mal d'objectifs à atteindre. Donc les plus beaux cadeaux restent à venir, entre guillemets. Mais voilà, on a aujourd'hui, il y a 60, un petit peu plus de 60 contributeurs sur le projet. Donc ça crée quand même un noyau de joueurs, mais l'idée c'est de le faire découvrir le plus possible, et c'est pour ça que je passe à RDWA aujourd'hui, c'est pour faire la suite de notre première interview, et puis pour aussi, comme j'ai beaucoup fait jouer Polscar dans le Vercors, c'était aussi de m'adresser directement aux gens qui auraient pu entendre parler du projet via l'As de Trèfle ou via la coopère de jeu, ce genre de choses.
Les écrits sont rédigés en français. Est-ce que, à l'avenir, vous envisagez aussi une internationalisation de Polscar?
Aujourd'hui, en France, la traduction coûte très cher. Moi, je n'ai pas un niveau d'anglais, même si je me débrouille, mais je n'ai pas un niveau suffisant pour le traduire moi-même. Et puis, c'est un travail colossal. Je sais qu'il y a des maisons d'édition qui sont soit françaises, soit internationales, et qui se spécialisent aujourd'hui sur l'exportation de projets. Donc souvent, c'est des projets anglais qui sont traduits en français, mais l'inverse est aussi vrai. On verra. L'important, c'est qu'aujourd'hui, ce jeu connaisse déjà et rencontre déjà sa communauté francophone. Francophone veut dire également belge, québécoise. Aujourd'hui, pour vous donner une idée sur le projet, il y a 10 contributeurs qui sont belges et 2 contributeurs qui sont québécois, puisque j'ai eu l'occasion d'être interviewé par des chaînes québécoises sur YouTube, québécoises et puis belges. Donc voilà, le jeu petit à petit s'exporte à l'étranger, mais quand même dans une sphère francophone pour l'instant, ouais. Comment aujourd'hui suivre l'actualité de Polscar? Je pense que la manière la plus simple, c'est déjà de se connecter sur le site internet polscar.fr, où vous allez avoir pas mal d'illustrations, pas mal d'informations qui vous plongeront dans l'ambiance. Et puis aujourd'hui, surtout, indépendamment de votre appétence pour les réseaux sociaux, puisque Polscar est présent sur Facebook, sur Instagram, sur Discord, etc., c'est surtout la page de Game on Tabletop qui est importante, je pense, puisque vous allez avoir déjà le court-métrage qui va vous plonger dans l'ambiance, et puis surtout une vidéo de présentation, des petits textes qui vont vous décrire le projet. Je pense que c'est la meilleure manière de découvrir le projet. Et si jamais vous êtes intéressé et que vous avez envie de jouer au jeu avant de financer et que vous êtes disponible dans les quelques semaines qui viennent, j'organise des parties découvertes, donc en général sur Internet, via des réunions virtuelles. Mais étant donné que j'habite Die, on peut imaginer aussi une partie découverte sur le territoire, quoi. Je le ferai avec grand plaisir.
Enzo Cavalier, je vous remercie d'être venu sur RDWA pour nous parler de Polskar, un jeu d'expédition de votre création et qui est en financement participatif. À l'heure actuelle, vous trouverez les liens internet du financement et du jeu sur la page internet de l'émission sur RDWA. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.